Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Il y a deux semaines, le Conseil d'État a validé le projet de rénovation du grand magasin parisien La Samaritaine. Franck Ferrand a suivi l'affaire de près. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. L'arrêt du Conseil d'État met fin à plusieurs années de procédures diverses et le moins qu'on puisse dire est qu'il ne plaît pas à tout le monde. Il désole notamment mon invité, habitué de l'émission, Alexandre Gady, qui enseigne l'histoire de l'art à la Sorbonne. Nous allons entendre son point de vue évidemment, mais aussitôt après que je vous aurai raconté l'histoire de la création de La Samaritaine.
Et tout
la Samar, comme on dit.
La Samar. À tout à l'heure. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Josiane sur l'origine des boutons de manchette.
Alors, je ne peux pas vous parler de mes boutons de manchette aujourd'hui puisque chaleur oblige, j'ai retroussé mes manches. J'espère que ça ne va pas choquer le couple cognac jet. On m'a dit qu'ils étaient tout à fait à cheval sur la tenue.
Europe 1. Cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Nous vivons dans un monde qui change, évidemment, et qui change vite et dans des proportions folles. Mais dites-vous qu'il y a eu d'autres périodes de très grands bouleversements. Ça a été notamment le cas du 19e siècle avec cette révolution industrielle qui d'abord a été une révolution ferroviaire et qui s'est traduite par une révolution urbaine considérable. Tout a été bousculé, tout a changé, y compris les modes de distribution, avec dans les grandes villes et tout particulièrement dans la capitale, l'apparition de ce qu'on a appelé les grands magasins. Ces grands magasins qui étaient les héritiers des magasins de nouveautés, vous savez, où on proposait de nombreux articles dans des vitrines attrayantes, avec des possibilités de reprise ou d'échange, etc. C'est une nouvelle façon d'envisager le commerce. Nous avons tous voyagé dans des pays qui sont, disons, peu ouverts à l'économie libérale. Et vous voyez ce que ça peut donner quand il n'y a pas justement ces espèces de pôles de marchandises. Il y en a de moins en moins de ces pays. Ça devient vraiment très difficile d'en trouver sur la planète aujourd'hui. Mais enfin, il y a encore des endroits où vous êtes obligé d'entrer dans les maisons pour aller acheter des articles. Vous avez très peu de choix. Vous n'êtes pas du tout à l'aise. Vous ne connaissez pas les prix des choses puisqu'ils ne sont pas affichés, etc. Eh bien, c'est ce qui se passait, dites-le vous, avant la monarchie de Juillet en France. On était dans ce principe-là. Et d'un seul coup vont apparaître trois grandes révolutions. En quelque sorte, qui change tout. L'entrée libre, les prix marqués et le rayonnage. L'entrée libre, ça veut dire que vous pouvez entrer dans un magasin sans être obligé d'acheter. Alors, on n'était pas obligé par la loi, mais ce que je veux dire, c'est que avant, on se sentait obligé. Vous arriviez, vous parliez tout de suite au vendeur ou à la vendeuse, et puis fallait faire affaire. Là, maintenant, il y a des magasins dans lesquels vous pouvez vous promener. Les dames, notamment, adorent ça, pardon, je veux pas faire de sexisme, mais vous entrez, vous vous baladez, vous regardez, et éventuellement, vous ressortez sans acheter. Ça, c'est l'entrée libre. Les prix marqués, très important, parce qu'à partir du moment où vous avez une étiquette avec le prix, ça rassure la cliente et le client, puisque d'un seul coup, vous savez à quoi vous vous engagez. Alors qu'avant, évidemment, entre telle ou telle robe, comme vous ne connaissiez pas les prix, c'était plus embarrassant. Et puis, d'ailleurs, je parle telle ou telle robe, c'est faux, puisque les robes, à l'époque, elles étaient faites par des couturières et il n'y avait pas encore de prêt-à-porter. Mais enfin, je retire ce que je viens de dire. Et puis, le rayonnage, c'est peut-être le plus important de tout ça. C'est l'idée qu'a eu Boussicault, hein, c'est lui l'homme, l'inventeur de l'affaire, d'avoir dans un même magasin et à un même étage des produits de nature différente. C'est-à-dire que dans le même magasin, vous allez avoir non seulement les serviettes de toilette, mais le savon, mais pourquoi pas le peignoir et le parfum, etc. Des produits qu'autrefois, on était obligé d'aller acheter dans des boutiques différentes et parfois éloignées les unes des autres. Là, d'un seul coup, vous avez tout dans le même endroit. C'est en 1952 qu'Aristide Boussicault va créer son premier grand magasin. C'est rive gauche à Paris, c'est le fameux Bon Marché, qui aujourd'hui encore reste le grand magasin mythique de la capitale. À cette époque-là, c'est la toute première fois, vous imaginez, et c'est l'une des premières fois au monde. On est dans quelque chose de vraiment très nouveau. Ce Bon Marché institue la notion de client roi et c'était vrai, hein, c'est pas seulement un slogan publicitaire, c'est-à-dire que on traitait chaque client et disons-le, parce que je crois que l'immense majorité, c'était des clientes, comme des rois et comme des reines. Vraiment, c'est la naissance de cette idée marchande que le client a tous les droits, qu'il peut tout demander d'une certaine manière. Alors dans la foulée, on va voir apparaître, quand je dis dans la foulée, c'est bientôt, hein, c'est encore sous le Second Empire, les galeries du Louvre, le printemps, le fameux bazar de l'Hôtel de Ville, bien entendu, qui deviendra beaucoup plus tard le BHV, et puis les galeries Lafayette. Il faudrait bien sûr parler du Bonheur des Dames, même si le magasin qui a existé, mais ce n'est pas celui que décrit Zola, c'est évidemment le grand magasin emblématique, puisque Émile Zola en a fait ce roman tout à fait extraordinaire. Les Galeries Lafayette, entre parenthèses, c'est plus tard, hein. On est en 1893, plus tard il y aura encore le printemps, etc., bien entendu. La réussite la plus stupéfiante dans ce domaine, c'est celle réalisée par Ernest Cognac et son épouse Marie-Louise Jay. Les Cognac Jay, donc, comme on les appellera plus tard, ils sont un exemple absolument inouï de réussite. Mais quand je dis de réussite, c'est vraiment une réussite incroyable. Dites-vous que Théodore Ernest Cognac, pour emprunter son prénom complet, était né dans l'île de Ré en 1839, vous voyez, en octobre 39, c'est-à-dire vraiment au début, enfin pendant la monarchie de Juillet. Il était né à Saint-Martin-de-Ré, hein, à l'abri des grandes forteresses de Vauban, qui sont devenues un bagne, bien entendu. Il était le fils d'un orfèvre, cet orfèvre qui était par ailleurs greffier au tribunal de commerce, enfin vous voyez, quelqu'un qui avait quand même un peu d'ambition pour lui et pour ses enfants. Et ce fils va rêver d'être acteur, sauf que lorsqu'il a 12 ans, son père meurt. Et l'on pense, parce que ça a été complètement étouffé cette histoire, mais l'on pense que son père se serait suicidé car il avait été ruiné par un associé indélicat. Ça, malheureusement, c'était assez fréquent aussi dans cette période de grand brassage d'affaires du milieu du 19e siècle. Ernest Cognac, à ce moment-là, doit quitter l'école. Il n'y a plus du tout, il faut travailler. Hein. Donc il va devenir marchand itinérant à La Rochelle d'abord, et puis à Bordeaux. Et puis de Bordeaux, il y a le chemin de fer à l'époque, bien entendu. Il va tenter sa chance. Il monte à la capitale, comme on dit. Et le voilà donc à Paris, où on va le retrouver dans pas mal de grands magasins. Il s'entend pas bien du tout avec un chef de rayon du magasin du Louvre. Donc il est un peu viré. Finalement, il se fait embaucher à la Nouvelle Héloïse. On se fait très facilement virer à l'époque, mais très facilement embaucher aussi. Donc ceci compense un peu cela. Et c'est à la Nouvelle Héloïse, d'ailleurs, qu'il va rencontrer sa femme. Je vous en dirai un mot tout à l'heure. Alors, voilà un homme qui va économiser sou par sou pendant 15 ans. On est vraiment dans les, vous savez, ces espèces de réussites emblématiques qui étaient données en exemple au début du 20e siècle et qui appartiennent quand même au 19e. Il va faire 5000 francs, c'est beaucoup d'argent 5000 francs, 5000 francs d'économie en 15 ans afin de pouvoir enfin se mettre à son compte. Quand je dis qu'il se prive, il se prive. Hein. On l'a vu mettre son parapluie en gage un jour, il n'y tenait plus pour pouvoir quand même déjeuner dans une crèmerie, vous voyez. Bon. En 1867, il a assez d'argent, il ouvre donc son premier magasin à son compte, on est rue de Turbigot à Paris, ça s'appelle au Petit Bénéfice, trop petit bénéfice puisque le magasin a fermé, hein. Ça a été un échec, faut repartir à zéro, alors les économies sont parties cette fois. Donc voilà notre Ernest Cognac qui devient Camelot. Il faut vous dire que cet homme-là, vous savez, il vous vendrait n'importe quoi. Il a une faconde, une verve, une capacité de convaincre incroyable qui fait qu'il vend ce qu'il veut. On l'a surnommé le Napoléon du déballage. Vous voyez, c'est bon. Et à 30 ans, il a reconstitué suffisamment d'économies pour s'entendre avec le tenancier d'un petit café de la rue de la Monnaie et pour louer la salle annexe du café. Et on est tout à côté de la célèbre statue de la Samaritaine, enfin c'est pas une statue, c'est une fontaine de la Samaritaine dont je parlerai tout à l'heure avec Alexandre Gady, et il va nommer son petit sa boutique à la Samaritaine. Et il a quand même reçu, faut vous dire, 10 000 francs de sa sœur, sinon il n'y serait pas arrivé là, hein, mais bon. Et le voilà qui va tout de suite faire, sinon fortune, ça marche. Là, d'un seul coup, ça marche. Vous savez, le commerce, c'est d'abord et c'est surtout peut-être une affaire d'emplacement. Là, l'emplacement est bon, ça marche. En quelques mois, la boutique devient importante, on prend des employés, le café est transformé carrément lui-même en boutique, la Samaritaine se fait connaître, et il faut vous dire qu'il y a à côté d'Ernest Cognac une certaine Marie-Louise Jay, et alors elle, c'est un poème.
Thank you.
Sur Europe 1, un extrait de La Gaîté Parisienne de Jacques Offenbach. On vous retrouve, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur Ernest Cognac et son épouse Marie-Louise G.
Eh oui, alors il l'a rencontrée, je vous ai dit, ils ont travaillé... Elle était première au rayon confection du Bon Marché à l'époque. Première, vous voyez. Et pourtant, elle aussi, elle vient d'une famille modeste, bien plus modeste encore que celle de son mari. Une famille du duché de Savoie, son père était maçon, sa mère, sur l'acte de naissance, on voit campagnarde. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais oui, un peu quand même. Donc, comme beaucoup de Savoyards à cette époque, elle a subi elle aussi le grand arrachement, hein, cet exode urbain, la voilà, qui arrive à Paris à l'âge de 15 ans. Elle a donc rencontré Ernest Cognac, où ils ont un peu la même mentalité. Ils se sont mariés en 1872, et c'est ensemble qu'ils vont faire la Samaritaine. Ils vont en faire un magasin important, 48 mètres carrés en 1870. 4 ans plus tard, en 1974, on compte déjà plusieurs centaines de mètres carrés. Alors, quel est le secret du couple Cognac-Gey? D'abord, évidemment, toutes les garanties dont je vous parlais tout à l'heure, l'entrée libre, le rayonnage, le prix marqué, ça c'est devenu tout à fait habituel à l'époque, et puis la reprise, l'échange, etc. Le crédit qui va jouer un rôle absolument essentiel, bien entendu, et puis des marges très faibles. C'est le tout début de ce qu'on appellera beaucoup plus tard le discount, si vous voulez. C'est-à-dire que Ernest Cognac a compris que s'il veut faire venir les clientes pour ensuite leur vendre tout ce qu'il y a à vendre dans sa boutique, dans son magasin, devrais-je dire, c'est plusieurs boutiques côte à côte maintenant, eh bien, il faut leur proposer des articles à des prix défiant toute concurrence. Donc, sur certains prix, il ne va pas faire de marge. Il vend à prix comptant. Ça, c'est formidable. Et comme il s'est très bien entendu avec des financiers, il leur propose en plus un système de crédit à la consommation très efficace qui fait qu'on peut acheter à tempérament, n'est-ce pas, comme on disait. Et ça, c'est tout à fait inouï. Pour les gens de l'époque, ça n'existait pas. Donc, non seulement les produits sont moins chers qu'ailleurs, mais en plus, vous pouvez les payer en plusieurs versements. Bref, vous imaginez le succès complètement fou de ce magasin. L'autre secret, et ça appartient davantage à Marie-Louise qu'à Ernest, c'est évidemment une discipline de fer. Parce qu'alors, c'est une vraie porte de prison, la Marie-Louise, pardon de vous le dire comme ça, mais elle est d'une dureté avec le personnel, elle ne tolère pas une minute de retard, jamais un congé octroyé sans demande très longtemps auparavant, une tenue toujours impeccable. On l'a vu, et c'est terrible, on l'a vu renvoyer des employés simplement pour un bouton mal mis, vous voyez. Donc c'était vraiment quelqu'un de terrible. Mais ça permet cette discipline d'acier avec en plus une espèce de folie de l'argent. Alors, il faut être bien conscient de ça, parce que je vais en reparler tout à l'heure. Les Cognac-Gey ne sont pas des amoureux de l'argent pour l'argent. On en a fait des avares, des harpagons et tout. C'est pas ça l'idée. Parce qu'au contraire, on va les voir très philanthropes et très généreux. Ils savent pas quoi en faire de leur argent, pour tout vous dire. Il faut dire qu'ils en gagnent des montagnes d'argent. Mais bon, ils savent pas quoi en faire. Simplement, ils aiment la vertu, vous savez, c'est Marie-Louise G, c'est la dame qui reste jusqu'à la fin pour compter elle-même les caisses et vérifier qu'on ne la gruge pas de 5 centimes, hein. C'est voilà, d'un sou comme on disait à l'époque. Donc ça, c'est ce qui va sans doute faire en partie le succès. Quand un des rayons sous sa surveillance est encombré, nous dit le règlement qui a été mis en place par le couple, l'inspecteur ne doit pas hésiter à prélever du personnel dans les rayons où il y a peu de clientes pour les faire débiter ou faire des ventes dans ceux où il y a foule. Une prime sera accordée pour chaque débit. Vous voyez que tout ça est organisé. On ne rigole pas chez les Cognac-Gey. Il faut que la cliente soit servie à peine a-t-elle franchi le seuil du magasin et que tout ça tourne parfaitement. Ça, c'est 7 jours sur 7 hein, à l'époque. Faut pas l'oublier. 7 jours sur 7. Et Monsieur Cognac et Madame Gey, donc les Cognac-Gey, si je puis dire, ne prennent jamais leur repas du midi ensemble, puisque pendant que l'un se restaure, il faut que l'autre soit là à tout surveiller, à surveiller les inspecteurs qui eux-mêmes surveillent les vendeuses et les vendeurs. Bon. C'est Francis Jourdain, fils de l'architecte Franz Jourdain, dont on va parler tout à l'heure, bien entendu, qui a bâti l'édifice 1900 de la Samar. C'est Francis Jourdain qui a écrit dans ses mémoires « Les Cognac n'avaient aucun besoin, ni même, si bizarre que cela paraisse, aucun amour de l'argent, vous voyez. Ils ne savaient comment dépenser ce qu'ils gagnaient à la sueur de leur front, à la sueur de tous les fronts inclinés devant eux. Aucun luxe ne les tentait. À l'opulence dans l'oisiveté, ils eussent préféré de longs jours misérablement passés au service de la Samar. L'argent gagné n'était pas à eux, mais à la Samar. » Et cet argent, ils avaient une sorte de gêne à le prendre, une sorte de honte à le dépenser. Dérober une minute du temps dû à la Samar eût paru sacrilège, aussi bien à Louise Cognac qu'à son mari. Ni l'un ni l'autre n'ont jamais soupçonné ce que pouvait être la tendresse, ni enfant, ni ami. Alors, je vous disais qu'on travaillait 7 jours sur 7, mais il y a une loi quand même. Ben oui, c'est la loi du repos hebdomadaire en 1906. Alors, la loi dit qu'à compter du 1er janvier 1907, tout employeur doit accorder un jour de repos à ses employés. Je pense que pour Marie-Louise Gey, ça a dû être l'objet de quelques nuits sans sommeil, cette histoire terrible. Mais elle a bien été obligée, la mort dans l'âme, d'accorder le dimanche à ses employés. Et je peux vous dire que ça n'a pas dû être facile, bien entendu. Pas de syndicat, inutile de vous dire. L'idée même de grève leur colle des boutons. Voilà ce que nous dit Francis Jourdain. Père Laborème, par le travail, avait fait inscrire au fronton du magasin notre Ernest Cognac. Le travail n'avait de prestige à ses yeux que dans la réussite. Si l'esclave se rebellait, il devenait un ennemi. Il exécrait les syndicats, repère des honnêtes travailleurs décidés à réussir, c'est-à-dire à devenir patron. La grève n'a d'autre origine que la paresse, et la paresse, c'est le grand crime. Le pire des crimes. Et Francis Jourdain, qui quand même a la dent un peu dure envers nos amis, ajoute « Madame Cognac prenait plaisir à humilier les victimes sacrifiées sur son autel. Elle se vantait d'être restée insensible aux supplications d'un employé congédié pour une peccadille après 15 ans de bons et loyaux services. Il était à genoux à mes pieds. Il pleurait, me parlant de sa femme, de ses enfants. Je lui ai dit « Monsieur ». Et elle répétait les durs propos tenus par elle au malheureux, implorant vainement son pardon. Fière d'être intraitable, elle ne l'était pas moins de savoir parler à ces gens-là. Aucun autre ne lui importait. Alors, bon, c'est vrai que c'est pas très sympathique, hein. Il faut bien reconnaître que les Thénardier, là, ils sont quand même un peu durs. Mais, en même temps, ils ont bâti ce qu'il faut bien appeler un véritable empire. De 300 000 francs, on parle de francs or de l'époque, hein, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. De 300 000 francs en 1872, la recette passe à 2 millions en 1877, 6 millions en 82, 17 millions 6 ans plus tard, 25 millions de francs or en 1890, 450 millions en 1895. Je vous laisse digérer ces chiffres.
Excellent après-midi sur Europe 1. Vous écoutez Au cœur de l'histoire et nous attendons à tout moment vos messages et vos questions par mail europe1.fr, sur la page Facebook de l'émission ou via Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. On vous retrouve, Franck Ferrand, et vous continuerez d'évoquer le couple Cognac-Gey, les fondateurs du grand magasin parisien La Samaritaine.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Situé au cœur de Paris, entre la rue de Rivoli et la Seine, La Samaritaine est au cœur de l'histoire. Vous nous parlez, Franck Ferrand, de ses fondateurs, Ernest Cognac et Marie-Louise Gey.
Alors, je vous ai donné des chiffres et je ne suis pas certain du dernier, pour tout vous dire, parce qu'on ne peut pas passer de 25 millions en 90 à 450. Je pense que c'est 45 millions. Il y a une faute de frappe dans notre article là. C'est 45 millions en 1895. Mais bref, peu importe. Ce qui compte, c'est de comprendre à quel point les Cognac Gey sont devenus riches, très riches. Alors, ils vivent dans un hôtel particulier, avenue du Bois, vous savez, l'avenue du Bois, hein, ce qui deviendra l'avenue Foch. Mais ils vont aussi dépenser leur argent à des fins à des fins caritatives, humanitaires. Alors, il faut pas oublier que ils sont d'origine provinciale. Alors chacun va faire ce qu'il peut dans sa région natale. D'abord, Ernest Cognac va fonder le musée d'histoire locale de l'île de Ré. Marie-Louise Gey va créer la Geysinia, qui est un jardin botanique alpin ouvert au public à Samoëns, en Haute-Savoie. Ils vont créer en plein Paris un parc d'attractions. Le premier grand parc d'attractions qui s'appelle Magic City. Et puis surtout, et ça il faut le dire quand même, parce que j'ai été très sévère, mais je n'ai fait que citer le témoignage du fils de Franz Jourdain dans cette histoire. Mais c'est vrai qu'on présente toujours cette pauvre Marie-Louise Cognac comme une personne extrêmement dure et insensible. Mais à côté de ça, ce sont des gens qui ont vraiment eu le souci de leurs employés. On est à la naissance de ce qu'on appelait le paternalisme à l'époque, vous savez. Et les réserves et les dividendes retranchés, on garde 65% des bénéfices quand même pour les redistribuer au personnel. La Samaritaine en 1914 deviendra une société en commandite par action et ça permettra de créer ce que le général de Gaulle appelait de ses vœux, vous savez, la fameuse participation. Et la Samaritaine devient une société participative, donc c'est quand même intéressant. Puis il y a cette fondation qui est créée en 1916. Alors là, le couple a déjà près de 80 ans, hein. Qui va financer toutes sortes d'œuvres sociales, une maternité à Paris, une maison de retraite à Rueil-Malmaison, etc., etc. Alors là, un centre d'apprentissage à Argenteuil, un orphelinat pour 50 enfants, etc., etc. On n'en finirait pas de citer tout ce qui a été créé par les Cognac Jay. Donc vous voyez quand même, avec aussi le prix Cognac Jay, hein, ne l'oublions pas, qui lui n'est fondé qu'en 1920, mais c'est un don de 20 000 francs or qui passe par le billet de l'Institut de France et qui est donné à une famille nombreuse. Donc voyez tout ça, on comprend pourquoi Ernest Cognac est fait commandeur de la Légion d'honneur, etc. C'est devenu une sorte de bienfaiteur. Alors j'allais dire avec ou malgré eux, de toute façon, la Samaritaine, elle continue de faire des affaires incroyables. On a confié en 1900 à France Jourdain donc la constitution d'un nouveau magasin. En 17, les Cognac Jay inaugurent une Samaritaine de luxe. Alors là, on est sur l'autre, un peu plus haut, hein. On est dans le quartier de l'Opéra, boulevard des Capucines. Le but, ça, c'est d'attirer une clientèle plus fortunée. Ils ont vu ce qui se passait avec d'autres grands magasins, les Cognac Jay. Ils se sont dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne s'adresse après tout qu'au peuple, qu'à la population modeste? Après tout, les gens fortunés doivent avoir leur grand magasin aussi. Donc, d'où la Samaritaine de luxe. En tout, quand même, dans les magasins du groupe, j'allais dire, du couple, 18 millions de visiteurs à l'année en 1925. 4 magasins qui couvrent 233 000 mètres carrés, un trust de 90 rayons. Enfin, vous imaginez, quand elle meurt en 1925, à 87 ans, Marie-Louise Jay peut se dire impératrice. En tout cas, elle est à la tête d'un incroyable empire. Entre parenthèses, mais c'est une parenthèse, il n'a pas été question de fermer le magasin pour la mort de Madame Cognac. Monsieur Cognac a estimé que c'était bien triste la mort de son épouse, ça sans doute. Mais ce n'était pas une raison pour perdre une journée de recettes quand même. Donc on a continué. À la mort de Louise Cognac, nous dit Francis Jourdain, on osa écrire qu'elle ne laissait que des regrets. La vérité est qu'elle se savait exécrée et loin d'en souffrir, elle se fut volontiers glorifiée d'avoir mérité cette haine. Son mari la suivra d'assez peu puisqu'il meurt 3 ans plus tard en 1928, à 88 ans. Alors il laisse les Cognac Jay une immense fortune, 2 hôtels particuliers, des collections considérables amassées pendant 27 ans, notamment beaucoup de mobilier extraordinaire du 18e siècle. Tout ça est légué à la ville de Paris et en 1929 sur le boulevard des Capucines, dans un bâtiment qui jouxte et qui englobe en partie la fameuse Samaritaine de luxe, on crée le musée Cognac Jay qui a été conçu pour ces collections. Vous savez que ces collections, beaucoup plus tard, on a connu ça dans les années 90, elles vont être déplacées pour être installées dans un hôtel du Marais, l'hôtel Donon, dans le 3e arrondissement. Les Cognac Jay n'avaient pas laissé d'enfants à leur mort, ils avaient adopté un neveu, Gabriel. C'est lui qui va reprendre la Samaritaine et c'est lui qui va lui donner un autre visage. Parce que je me rends compte que dans cette affaire, j'ai beaucoup parlé des créateurs, mais j'ai assez peu parlé de la création. Certains diraient de la créature. J'ai assez peu parlé des magasins en tant que tels. Eh bien, c'est ce que nous allons faire maintenant en compagnie d'Alexandre Gady. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Merci d'être venu et d'avoir déposé la colère qui vous habite au vestiaire pour nous parler de la Samaritaine et pour nous parler aussi de la Samaritaine d'aujourd'hui, de ce que tout ça va devenir. On en profitera pour faire le point avec vous sur un certain nombre de problèmes qui se posent dans la défense des paysages de la France. C'est l'intitulé même de l'association que vous avez l'honneur de présider.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Trouvez tout à la Samaritaine. Des parapluies, des jours de pluie, des bikinis pour l'île Fidji, les dragées blanches de la vie, les petites robes noires du paradis. On trouvait tout à la Samaritaine, même ce que l'on ne cherchait pas. Un homme que l'on
sur Europe 1, on écoutait un extrait de l'inconnu du magasin, c'était Natacha Régnier. La Samaritaine est au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, Alexandre Gadi, professeur d'histoire de l'art à la Sorbonne et président de la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France.
Alors c'est vous le grain de sable dans cette histoire, Alexandre Gadi, il faut le dire. On y viendra tout à l'heure, on évoquera bien entendu le combat qui a été le vôtre et qui, disons-le, est perdu là, étant donné l'arrêt du Conseil d'État. Revenons peut-être d'abord sur ce qu'est ce bâtiment lui-même. Alors, j'ai entre les mains un magnifique album publié aux éditions Picard. Entre parenthèses, c'est un peu une redondance puisque tout ce qui sort chez Picard est toujours très soigné. C'est un excellent éditeur.
Ouais, merveilleux éditeur, et pour tous les historiens de l'art et les archéologues, c'est notre grand éditeur français aujourd'hui.
Hein. Vraiment. Et alors là, les photos, les dessins, les élévations, les plans, tout ça, c'est une foison. C'est un très très beau livre qui évoque toute l'histoire de cette Samaritaine, qui au début du temps des Cognac Jay, vraiment au tout début, ne ressemblait pas à grand chose, faut bien le dire. C'était une adjonction de magasins qui avait été fait un peu de briquet de broc au départ.
Oui, parce que le grand magasin dont vous avez décrit l'émergence dans la société du 19e siècle, elle va prendre pour certains bâtiments très tôt, comme Boussicault, le visage d'un monument.
Voilà.
Bien identifié.
Comme le Bon Marché, alors là, oui.
Le Bon Marché avec le square devant, voilà, donc ça participe d'une mise en scène. Et puis, très longtemps dans le cas de la Samar, au contraire, un bricolage, comme le font d'ailleurs certains bâtiments publics qui s'agrandissent. On achète un immeuble voisin, d'abord un morceau, puis la totalité, puis le suivant, les planchers ne sont pas tout à fait raccordés l'un à l'autre, alors on va mettre une porte, des marches, et comme ça on va commencer de voir, le ministère de l'Intérieur n'est pas autre chose, place Beauvau, un grignotage par îlot, et la Samar pendant longtemps ça n'a été que ça jusqu'à l'exposition universelle de 1900 qui va lancer l'idée d'un nouveau magasin spectaculaire.
À qui confie-t-on ce nouveau magasin?
Alors un personnage que je dirais pourquoi tout à l'heure ça m'amuse au fond de, aussi le rebond historique du combat de la Samar, c'est Franz Jourdain. Alors Franz Jourdain, c'est un personnage qui n'est pas très connu aujourd'hui. Il a porté toute sa vie un combat. C'est un homme de combat. Il était haï, il a suscité, il y a des formules sur lui merveilleuses, il a suscité toutes les haines, toutes les colères par son opiniâtreté à défendre quelque chose de nouveau dans l'art, ce qu'on appellera d'ailleurs en partie l'art nouveau, c'est-à-dire une révolution esthétique qui passe par les matériaux, qui passe par une nouvelle liberté. Et je dois dire que Jourdain, par exemple, déteste la commission du Vieux Paris qui a été créée en 1898, merveilleuse institution qui s'occupe du Vieux Paris, et il veut créer la commission du Nouveau Paris, vous voyez, le rapport comme ça, polémique, qu'il entretient avec le passé. Aujourd'hui, c'est un architecte protégé au titre des monuments historiques, et j'ajoute ce trait qui me paraît merveilleux et que mes adversaires ont méconnu dans notre combat avec l'actuelle Samaritaine. Franz Jourdain est un des membres fondateurs de la SPPEF, l'association que je préside. À l'époque, c'est vrai.
Qui est la plus vieille association de France.
La plus ancienne, elle s'est créée en 1901. Et il faut dire que Jourdain, à l'époque, était sans doute sensible dans les combats que menaient mes prédécesseurs à la défense des paysages plutôt qu'à la défense des villes et des espaces urbains, ce qui est devenu aujourd'hui 50-50 dans le travail de cette association.
Il y a du travail à faire. Il y a une exposition en ce moment de photographie de Michel Houellebecq où l'on voit à quel point nos chers paysages français sont massacrés, défigurés partout. Enfin bon, bref, ça nous entraînerait loin. On en dira peut-être un mot si on a le temps à la fin de l'émission. J'allais dire si vous avez le temps, mais c'est plutôt à moi de m'en assurer, ça. Alors j'ai sous les yeux une photo de la Samaritaine à l'époque encore où elle était un grand magasin depuis le Pont Neuf. Et ce qu'on voit, c'est un bâtiment qui a l'air non pas art nouveau, mais art déco.
Alors voilà, il y a deux, si vous, c'est comme un bonbon avec deux couches à l'intérieur, c'est très compliqué. Et c'est une histoire aussi qui explique que dans la presse, on a dit beaucoup de sottises au moment des actuels rebondissements. En fait, Jourdain va construire un magasin qui ne se trouve pas sur la Seine, parce que les Cognac ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas réussi au début à avoir la façade sur l'eau. Et il faut rappeler une chose pour les promeneurs parisiens, quand vous prenez la rue des Prêtres Saint-Germain-l'Auxerrois qui longe la rue l'église, eh bien, vous vous arrêtez sur le grand magasin. À l'époque, c'est une rue qui se prolonge vers l'hôtel de ville. Et en fait, on a avancé le magasin en 1930 en mangeant une rue entière. On a digéré une rue. Mais au début, quand Jourdain reçoit la commande du magasin qui est inauguré l'année de la Grande Crue en 1910, il y échappe parce qu'il a un cuvelage, c'est déjà très moderne, eh bien ce magasin est en retrait. Et c'est un magasin extrêmement moderne qui joue avec des planchers métalliques et une façade métallique apparente. Mmh. Alors vous imaginez évidemment que ça provoque des remous, mais aussi parce que, pour qu'on la voie quand même de la Seine, Jourdain a proposé de faire deux pavillons en rotonde aux angles avec des espèces de bulbes à dôme assez extravagants qui se voient...
Très spectaculaires.
Très spectaculaires, qui choquent beaucoup et qui font beaucoup parler. Jourdain est très content, c'est ce qu'il veut, la promotion de cet art nouveau, cette visibilité du matériau qui devient aussi une forme de pensée de la construction, très inspirée aussi de ce qui se passe à ce moment-là à Chicago. Enfin, on est dans un rapport où l'Europe essaye de s'ouvrir à autre chose que l'éternelle architecture éclectique qu'on a beaucoup vue depuis les deux générations précédentes.
Pour ceux de nos auditeurs qui ne seraient pas parisiens ou qui ne connaîtraient pas très bien la capitale, il faut quand même expliquer que les façades sur la Seine ont toujours, c'est une constante à travers tous les siècles, tous les règnes, tous les architectes, ont toujours été très privilégiés. C'est un peu la façade de la ville en quelque sorte. Hein. Et donc, tout ce qui, de près ou de loin, touche à la Seine devient tout de suite très sensible.
Absolument, et ça a été tout de suite un des problèmes de la Samaritaine. Et d'ailleurs, ce qu'il faut rappeler, c'est que Jourdain est tellement provocateur, tellement arrogant, tellement militant, qu'en réalité, lorsqu'on va penser, après des opérations très longues de négociations avec la ville de Paris, avaler le morceau de rue des prêtres et s'avancer jusqu'à la Seine, avec un léger retrait pour le coup sur le quai qui met mieux en valeur la façade, là, eh bien, on va changer d'architecte. On va pousser sur l'arrière Jourdain et on va faire monter son collaborateur fidèle, mais qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus habile, qui est le fameux Henri Sauvage, auquel on doit
qui
en réalité...
Qui porte mal son nom, puisqu'il est tout sauf un sauvage.
Nom, oui. et auquel on doit en réalité la fameuse façade Art déco, qui n'a jamais été en débat dans le problème qui a récemment occupé les médias et qui est protégée au titre des monuments historiques, légitimement, parce que c'est une façade Art déco, cette fois-ci, très monumentale. Et là encore, je voudrais dire une chose qui a été complètement passée sous silence dans les rebondissements que nous avons connus devant la justice tout récemment. On a oublié une chose qui me paraît fondamentale et qui fait un fort contraste avec la situation actuelle, c'est que la ville de Paris n'a pas voulu de la façade de Jourdain et qu'il a fallu adapter à des règles, à des demandes des commissions, la commission d'esthétique de la ville. Et le politique s'est imposé pour faire un chef-d'œuvre qu'aujourd'hui on nous a servi comme la revendication du bâtiment actuel. Non, le bâtiment des années 30, c'est le fruit d'un compromis entre les instances officielles, les hommes politiques et l'architecte de la Samaritaine.
Vous voulez dire que le pouvoir politique s'était plus imposé à l'époque qu'il ne s'impose aujourd'hui, c'est ça? Mais ça, c'est une évolution de la société.
C'est
hein,
une
reste,
évolution
hein.
de la société qui a été fondée aussi sur ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on a considéré que l'importance du site de la Seine était telle qu'il n'était pas question qu'un magasin et un architecte fassent la loi.
Alors, soyons bien clairs là-dessus, parce que là encore, je pense que la plupart de ceux qui nous écoutent ne sont pas au fait des détails. Ce n'est pas du tout cette fameuse façade côté Seine hein, qui donne sur le pont Neuf qui est en cause. Non. C'est l'autre façade, celle qui donne du côté de la rue de Rivoli, en fait.
Hein, voilà, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, la Samaritaine, ça va être progressivement un ensemble de
choses.
C'est
tout un quartier, en fait. Hein.
Il y a quatre magasins. Voilà. Et le magasin dont on parle, le magasin numéro 2, il y a un magasin numéro 1 qui existe encore, mais qui n'est plus sous enseigne de la Samaritaine depuis une quinzaine d'années, et qui est un ensemble de façades haussmanniennes raboutées intérieurement les unes aux autres. Il y a un magasin 3 et il y a le magasin 4 qui est l'objet du procès retentissant dont on a beaucoup parlé et qui, lui, n'avait pas, en raison de la crise de l'entre-deux-guerres, n'avait pas été reconstruit par Gabriel et resté en fond un îlot composite symbole de cette histoire d'agrandissement par tiroir, si j'ose dire, de la Samaritaine. Et c'est ça qui était en jeu et qui a été détruit et qui va être reconstruit dans une esthétique complètement différente du quartier.
Alors c'est une esthétique qui va trancher, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une sorte de grand, très, très grand rideau de verre en fait. Mmh. Mais alors, je vais me faire l'avocat du diable, est-ce qu'on ne peut pas défendre un geste architectural? Est-ce qu'on ne peut pas admettre que dans une grande capitale comme Paris, qui en a vu d'autres, si je puis dire même de bien 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 pire, je parlerai même pas, je ne citerai même pas le nom d'Haussmann, mais est-ce qu'on ne peut pas admettre que de temps en temps on puisse faire quand même quelques expériences à partir du moment où elles ne sont pas choquantes? C'est peut-être là d'ailleurs qu'est le problème. Parce que pour vous, c'est choquant?
Non, je dirais pas ça comme ça. Effectivement, c'est une vraie question légitime. Et au fond, Paris est une ville qui a beaucoup évolué et les évolutions continueront, quoi qu'on en pense. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas, nous, spécifiquement opposés à ça. Ce serait un peu caricaturer notre position. Ce qui nous paraissait intéressant dans ce dossier, c'est au fond de dire que, avant même d'imaginer qu'on va faire une grande architecture, il existe quelque chose en place. La rue de Rivoli n'est pas spécifiquement ce que j'appellerais un no man's land. Et il y avait un îlot entièrement bâti, très chahuté par l'histoire, mais qui participait quand même sur sa façade elle-même de la rue de Rivoli par quatre grands immeubles en pierre de taille de l'alignement protégé au titre des grands percements parisiens d'Haussmann justement, en co-visibilité d'un certain nombre de monuments historiques, et qu'avant même de dire je vais faire un grand geste architectural dont la publicité annonçait l'abolition de la façade, hein, nous allons abolir la notion classique de façade,
Il n'y a plus de façade, là. Par définition, c'est un rideau.
De façade translucide. En même temps, c'est un très beau discours, mais enfin, des façades en verre sur une structure béton-métal, on connaît ça quand même depuis très longtemps. Enfin bon, mettons qu'il y ait là un soin nouveau apporté à cette peau. Mais en tout cas, ce qui nous intéressait, nous, c'était pas de dire on veut pas de moderne à tel endroit, parce que ça n'aurait pas beaucoup de sens. C'était de dire, d'abord, il y a un existant qui n'est pas sans valeur. Est-ce qu'on a bien pris la mesure de ce qu'il y avait avant de le condamner? D'ailleurs, on a pris la peine de ne pas tout démolir, puisqu'on va garder, vous le savez, des immeubles du XVIIe siècle sur la rue de l'Arbre Sec, donc des petites maisons qui accompagnent la rue qui va vers l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Et donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était qu'il y a des règlements. Alors, on peut dire qu'il y a trop de règlements. Moi, je pense que la règle, c'est la civilisation. Et ces règlements, il nous semblait, et ça a été pendant deux juridictions jusqu'au Conseil d'État, l'avis de ces juridictions, il nous semblait que ces règlements faisaient que le bâtiment proposé n'était pas réglementaire. Voilà, c'est pourquoi nous avons voulu porter le fer, en même temps pour susciter un débat, parce qu'il est clair qu'à part la commission du Vieux-Paris, tout le monde avait dit qu'il n'y avait aucun problème dans ce dossier. Ça nous paraissait quand même un tout petit peu plus compliqué.
Alors, ce nouveau bâtiment, il va être dédié, il va y avoir un grand hôtel, il va y avoir...
Le grand hôtel est dans le bâtiment Sauvage Jourdain, donc du côté de la Seine, un hôtel de luxe, qui n'est pas totalement, d'ailleurs, je crois, en accord avec certaines déclarations qui avaient été faites par le propriétaire lors de la fermeture du magasin.
C'est le groupe LVMH, il faut le dire.
Péché Véniel. En revanche, de ce côté-là, il y a des bureaux, principalement, et puis dans les maisons conservées, du logement social et une petite crèche.
Alors, je voudrais qu'on dise un mot aussi de l'autre Samaritaine, la fameuse Samaritaine de luxe, là, celle qui se trouve dans le quartier de l'Opéra. Qu'est-elle devenue? Parce que c'était le musée Cognac-Jay, ça n'est plus le musée Cognac-Jay.
Non, ça a été une affaire un peu complexe, parce que vraisemblablement, dans les termes de la donation à la ville, il y avait quand même l'idée que ça devait rester là. Finalement, la ville a fait un autre choix, le bâtiment existe encore, il a été assez transformé. Je ne sais pas, pour dire la vérité, ce que c'est devenu, j'imagine un immeuble de bureau. Ou... En tout cas, les collections ont été démontées soigneusement et on les a transportées dans l'hôtel de Donon dont vous avez parlé, qui est une petite maison du Marais, très jolie maison renaissance, qu'on avait achetée dans les années 60, un peu pour la sauver.
Très jolie, mais très 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 restaurée, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. L'intérieur...
C'est une reconstruction complète pour certaines parties des monuments historiques qui ont été assez forts, comme quelquefois ils savent faire. Mais je dois dire que surtout, ce qui m'a toujours gêné dans l'opération du déménagement de ce musée, d'abord c'était qu'on allait quand même contre une histoire qui s'appariait à l'histoire du magasin populaire. Et donc, je trouvais bien qu'on respecte la donation, mais surtout, il faut dire que l'hôtel de Donon est une toute petite chose et que les collections sont rentrées au chausse-pied, au forceps même, et ça donne quand on visite ce musée, il faut toujours y aller, quoi qu'il arrive, mais ça donne une toute petite impression de malaise. Tout est très serré, il y a des plafonds trop bas, les meubles de 18e trop grands.
Moi, j'ai pas connu, pour tout vous dire, l'ancien musée.
Je sais pas comment c'était avant. Mais je pense qu'avant, l'avantage de la Samaritaine de luxe, c'est qu'une partie des espaces avait été conçue pour les boiseries et les mobiliers qui avaient été accumulés par les collectionneurs.
La Samaritaine, le grand magasin, sa mémoire restera alors incontestablement à travers ce monument de papier qui est l'ouvrage publié par Picard sous la direction de Jean-François Cabestan et de Hubert Lempereur. Donc ce livre qui s'appelle tout simplement Samaritaine, la Samaritaine Paris. Ma grand-mère, ma mère et son mari rencontrés à la Samar y ont travaillé, nous dit Claudine, travaillé toute leur vie. Moi j'y ai fait des jobs d'été. Oh, je ne compte pas, ajoute Jocelyne, le nombre de fois où j'y suis allé pour faire mes courses. Je travaillais à côté, c'était très pratique. Je me souviens de ces magnifiques escaliers en bois, ajoute Jean-Louis. Aller là-bas, en tant que provincial, c'était une visite en soi. Et alors, Daniel nous dit, j'ai une tasse, parce qu'il y a eu énormément de souvenirs. Hein. C'est Françoise qui nous dit, j'ai un almanach de la Samaritaine datant de 1900, et à l'époque, elle ne comptait qu'un bâtiment, effectivement. Et Daniel dit, j'ai une tasse avec soucoupe de l'ancienne Samaritaine datée de 1718. Est-ce que c'est la Samaritaine dont on parle? Alors là, deux choses l'une, Daniel. Ou bien la date, c'est 1918 et vous prenez ce 9 pour un 7, mais si c'est bien 1718, alors non, il s'agirait peut-être de la fontaine, de la Samaritaine ou que sais-je, mais sûrement pas du grand magasin.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de la Samaritaine cet après-midi, vous recevez Franck Ferrand, Alexandre Guedi, professeur d'histoire de l'art à la Sorbonne et président de la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France.
Un certain nombre de nos auditeurs veulent en savoir davantage sur cette association, donc il faut leur expliquer de quoi il s'agit exactement, Alexandre Guedi.
Alors c'est une association qui a été créée par le premier prix Nobel de littérature, Sully Prudhomme, en 1901, juste après le vote de la loi démocratique sur les associations en France, la fameuse loi de juillet 1901.
Si je puis dire, quand même, il se la joue un peu. Elle a été créée dès 1901. par Sully Prudhomme.
Oui, oui, écoutez, j'y peux rien, hein, nous sommes très modestes, mais enfin, voilà, c'est comme ça. Et elle a été reconnue d'utilité publique au moment du Front Populaire et agréée au titre de l'environnement au moment où on a créé ces agréments en 1978. Donc c'est une association nationale qui se bat pour le bien public. Elle n'a pas d'intérêt particulier, bien sûr, à défendre. Hein. Et elle essaye d'abord... Elle a essayé tout au long de son histoire de faire voter des lois protectrices pour le patrimoine. Première loi contre la publicité dans les centres anciens et sur les monuments. Elle a été à l'origine de la première loi sur la protection des paysages, la loi de 1906, qui a donné notre loi actuelle de 1930. Elle s'est beaucoup battue pour la loi Malraux, les secteurs sauvegardés, dont le président, mon anté-prédécesseur, était rapporteur au Sénat. Et elle a beaucoup lutté aussi pour l'application de ces règles. Elle fait beaucoup de procès justement pour ça, pour essayer de faire appliquer le droit ou de le faire évoluer éventuellement quand il y a des dossiers qui sont compliqués. Et enfin, c'est une association évidemment qui participe beaucoup par la concertation, à des commissions, à des collaborations avec l'État, les ministères, les élus locaux.
Le moins qu'on puisse dire est que vous avez fort à faire, puisque, il suffit de se promener un petit peu en France pour voir partout, des choses un peu terribles. Et ça s'aggrave de jour en jour, c'est incroyable. Alors je ne parle pas des fameux ronds-points, on ne va pas revenir sur les ronds-points.
On les trouvera très beaux. Tellement ce qui arrive va être terrible.
Peut-être, c'est-à-dire qu'est-ce qui arrive
Ce qui arrive, on en a parlé tout à l'heure à propos de la manifestation de l'Hôtel de Ville, c'est la défiguration complète de toute la France par une machine qu'on appelle l'éolienne, qui bénéficie d'une image sympathique, mais qui est véritablement une escroquerie écologique, puisque l'éolien ne fonctionne pas vraiment, et que ce n'est pas une énergie renouvelable, mais une énergie du passé.
Généralement, on met quand même les éoliennes un peu loin des monuments historiques.
Oui, mais les machines à 150 mètres en bout de pale font qu'on les voit tellement loin que l'éloignement mal calibré, en fait, revient à ne pas faire attention du tout au paysage. Le problème de l'éolien, c'est qu'il ne cherche pas à préserver les paysages, il cherche du vent. L'éolien, ça fonctionne pas
par
très
définition,
bien.
Par définition, oui, ça.
Voilà. Or, l'éolien a besoin d'un vent équilibré. S'il n'y a pas beaucoup de vent, ça ne tourne pas. S'il y a trop de vent, ça ne tourne pas. C'est pourquoi les éoliennes ne tournent que 30% du temps, au mieux. Donc, il y aurait du vent dans le Gard des Glaces, on aurait des éoliennes à Versailles.
Ah oui, vous voyez ce que je pense. Oui. Peut-être pas exagéré quand même. Il y en a une à Coutances qui vous dérange.
Alors à Coutances, c'est une.
J'ai lu ça.
C'est une éolienne idiote parce qu'elle est toute seule. Alors une éolienne toute seule, ça produit quasiment rien et elle défigure la magnifique cathédrale de Coutances qui est classée depuis 1862, qui est un des grands chefs-d'œuvre du gothique normand. Et voilà, donc on a engagé un bras de fer avec le propriétaire de cette éolienne qui est déjà bâtie. Je précise qu'en général, les associations se battent pour empêcher l'érection des éoliennes, mais quand elles sont bâties, il y a aussi d'autres moyens de la justice qui sont des plaintes au civil.
Vous pouvez imaginer qu'on détruise une éolienne ?
Oui, il y a eu déjà des jugements pour destruction d'éoliennes. Pour l'instant, c'est en appel, mais on en verra. Et de toute façon, on finira comme ça, puisque c'est une énergie qui sera dépassée par de véritables énergies renouvelables dans très peu de temps.
Il y a aussi tout simplement, et il faut le dire ça, il y a le problème qui est lié au défaut d'entretien d'un certain nombre de sites. Tout ça coûte extrêmement cher, les budgets se réduisent vraiment comme une peau de chagrin et le temps passant, on est confronté à vraiment des situations d'urgence. Il y en aurait tellement que non seulement une émission, mais une série d'émissions n'y suffirait pas. Il y a, et je dis d'ailleurs à nos auditeurs pour qu'on ne soit pas submergés au standard, parce que je sais bien sûr que vous allez nous écrire, nous donner toutes sortes d'exemples. Je suis bien conscient, nous sommes tous bien conscients, mais c'est un problème qui s'aggrave d'année en année et ça, malheureusement, il n'y a pas grand monde qui ait l'air décidé à y faire grand chose. J'ai vu aussi que vous étiez très inquiet par ce qui se passe à Orléans.
Oui, que se passe-t-il à Orléans ? Un bras de fer avec le maire d'Orléans. Je précise bien sûr que nous ne faisons jamais de politique.
Mais l'association est apolitique, c'est très important de le dire.
Évidemment, et si nous nous sommes affrontés à la mairie de Paris, là, à Orléans, c'est un maire de l'autre bord. Nous sommes là contre le vandalisme. La ligne de partage, elle n'est pas droite-gauche.
Je vous ai entendu tout à l'heure critiquer l'affaire de l'hôtel d'Aunon. Ça, c'était du temps de Jacques Chirac.
Évidemment, dont le bilan patrimonial pourrait être aussi sévèrement discuté. À Orléans, il s'agit pour le passage d'un tramway qui finalement est quand même passé, de démolir par élargissement la rue des Carmes, dans la partie qui a échappé au bombardement de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui est particulièrement cruel évidemment, et qui sont des maisons, alors là pour le coup, qui vont du 15e au 18e siècle, sur cave médiévale. On a tout récemment, parce que les maisons malheureusement ont été achetées et pourrissent sur pied en ce moment, on a vu se décrocher des enduits sous lesquels sont apparues des façades à pans de bois, donc il y a vraiment un patrimoine merveilleux. On ne comprend pas très bien parce que le maire a fait dans son premier mandat un beau travail à Orléans notamment, qui est devenu une zone protégée du patrimoine, ce qu'on appelait dans le temps les ZPPAUP. Et donc voilà, là il y a un acharnement pour démolir. Et petite anecdote, on a beaucoup parlé de Jean Zay, le journal de Jean Zay était dans cette rue, dans un des immeubles menacés. On a beaucoup évidemment alerté aussi sur ce lieu de mémoire. J'ai rencontré une des filles de Jean Zay à cette occasion et il y a là quelque chose qui n'est pas de l'ordre du compréhensible. On ne peut pas élargir par démolition une rue qui date du Moyen-Âge et de la Renaissance et du XVIIe siècle pour faire passer un tramway qui de toute façon depuis puits passe et tout va très bien, Madame la Marquise.
Ça, c'est des questions de politique municipale. Mmh. Il y a aussi une initiative privée qu'il faut peut-être encourager. Je pense aux fonds de dotation, notamment, qui ici et là peuvent faire un beau travail. J'étais à Cluny l'autre jour, j'ai vu ce qu'on fait sur la maison des Dragons, qui est une belle maison du 14e siècle. Et là, c'est un fonds de dotation. Ce sont des citoyens, simplement, qui se sont mis ensemble pour sauver cet endroit, pour le restaurer, pour le comprendre aussi à travers des fouilles. Enfin, il y a aussi de belles initiatives comme celle-là, bien sûr.
Heureusement, sinon on serait tellement démoralisé qu'on ferait plus de boulot.
On fermerait carrément
la boutique. La vérité, c'est ce qui est très important, et moi c'est ce que je dis à tous les élus que je rencontre, on a changé de système politique, la France est devenue une république décentralisée, il y a un vrai pouvoir local, mais ça ne peut pas remplacer l'État par un jeu comme ça de bonneteau. Il faut que l'État reste présent, il faut que les collectivités locales soient puissantes, et il faut que les citoyens et les associations aient aussi leur part de ce jeu à trois. Et c'est pourquoi toutes les initiatives privées qui en ce moment vont arriver à sauver du patrimoine sont tellement encourageantes, parce qu'effectivement les citoyens ont été habitués pendant très longtemps à ce que le patrimoine soit une affaire de l'État, construite par Louis-Philippe dans un système très jacobin. Aujourd'hui c'est fini, l'État s'est retiré, il y a une évaporation de l'État dans le domaine culturel et patrimonial.
Pour pas dire une démission entre nous.
Très forte évidemment, et donc les citoyens doivent se mobiliser, avoir des idées. Heureusement, il y a un vieux slogan, en France on n'a pas de pétrole, on a des idées. On a moins d'argent aujourd'hui pour le patrimoine, mais on a des idées. La Fondation du patrimoine fait un très beau travail.
Bien sûr, magnifique.
Et donc voilà, tout ça, ça va monter en puissance dans les années à venir. C'est pourquoi il faut que les gens adhèrent aux associations. La France est sous-représentée comme nos syndicats dans le domaine associatif. Et ça crée, je pense, aussi des difficultés avec les gens qui sont trop assis sur l'ancien système politique. On est un élu, donc les associations n'existent pas. Ça, on entend beaucoup ce discours. Hein. On s'affronte à des élus qui nous disent « moi je suis élu par le peuple ». Je crois que si on résume la démocratie,
elles sont constituées du peuple.
Voilà, oui. Si on résume la démocratie à un bulletin de vote, évidemment, je pense qu'on est très en retard de la pratique démocratique européenne aujourd'hui.
Il y a un endroit que j'aime tout particulièrement, ce qui me concerne, ce sont les serres d'Auteuil, qui sont un endroit de poésie absolue, juste là aux portes de Paris. Hein. C'est tout à fait magnifique et c'est en danger, ça, il faut le dire. Et là encore, SP, je ne sais pas comment vous le dites, la SPEF ou la SPPEF, est en pointe dans le combat.
Là, nous entrons dans les recours, puisque nos avocats vont déposer les recours contre les permis qui ont été passés en force contre l'avis de la ministre de l'écologie. Madame Royal n'a pas voulu signer les permis parce qu'il s'agit d'abîmer un site classé, le Bois de Boulogne, un jardin protégé au titre des monuments historiques. Là encore, tous les verrous de l'État qui auraient dû fonctionner ont sauté. Et monsieur Valls, qui manifestement dans son emploi du temps a trouvé du temps pour s'intéresser aux serres d'Auteuil, a forcé le passage et donc les permis ont été délivrés au mois de juin, juste après la fin du tournoi.
C'est-à-dire qu'on va agrandir Roland-Garros, donc ça tout le monde est content, mais au détriment d'un édifice éblouissant. Hein,
tout simplement, construit un stade de 5000 places dans un jardin protégé. Et on vous explique qu'il n'y a pas d'autre solution, alors que les associations ont fait l'effort de proposer un contre-projet, ce qui est très difficile à faire, parce qu'il faut payer un architecte, payer un ingénieur,
des études.
Et que, évidemment, la solution, elle est très basique. Un enfant de 5 ans y aurait pensé. Il s'agit de couvrir le périphérique qui se trouve à côté.
Hélas, nous dit Charlotte via Twitter, l'affaire des serres d'Auteuil ne va pas s'arranger avec la candidature de Paris aux Jeux Olympiques.
Ça, c'est sûr.
Malheureusement, je crois que Charlotte a raison. Bien. Un peu d'espoir, Alexandre Gady. Vous êtes en train de travailler en ce moment sur le monument des monuments, sur les Tuileries.
Oui, le Louvre et les Tuileries, une double histoire de ce palais Janus qui raconte aussi l'histoire de l'État depuis sa création par Philippe Auguste jusqu'au Grand Louvre qui participe du soft power et du rayonnement de la France. Et c'est un livre donc sur l'histoire architecturale et décorative de ce palais qui est quelquefois un peu masqué quand on est touriste sous le musée. Mais c'est vraiment, moi ce qui me fascine, c'est que quand Louis XVI a décidé de créer le musée du Louvre, on a imbriqué un musée dans un palais et c'est ce rapport en tension qui m'intéresse dans ce livre. Voilà.
Et puisque nous parlons de bons et beaux livres, je voudrais vous citer l'histoire d'un pré du bourg de Saint-Germain à l'hôtel de Mélon. C'est les 45 et 45 bis rue de Grenelle, un ouvrage de Dominique de la Tour aux éditions Lampsac. C'est un très beau livre qui nous fait revivre toute l'histoire d'un hôtel particulier. Ça vous connaît, hein, évidemment.
Oui, je veux lire ça avec plaisir.
Ça, c'est votre domaine. Merci beaucoup, Alexandre Gady. Et bon courage pour tous les combats que vous menez courageusement.
Au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et c'est une question de Josiane. Cet après-midi, elle vous demande, Franck Ferrand, via le site internet d'Europe 1, europe1.fr, d'expliquer l'origine des boutons de manchette.
Alors avant d'expliquer le bouton de manchette, il faut expliquer le bouton, tout simplement, qui est lié aux vêtements cousus. Alors nous, ça nous paraît évident, tout ça, évidemment, on baigne là-dedans depuis tant de siècles. Mais dites-vous que pendant très longtemps, on avait des vêtements drapés. Pensez aux toges, etc. Bon, notamment dans les pays chauds. C'est Marcel Mauss, l'ethnographe Mauss, qui nous dit que les vêtements cousus sont la spécificité des pays froids où le climat, en quelque sorte, impose de porter les vêtements plus près du corps et, si possible, en plusieurs couches. Bon, donc les premiers boutons, ils auraient été retrouvés néanmoins dans la vallée de l'Indus. Donc là, ça date d'il y a très très longtemps, le 3e millénaire avant notre ère. C'était des coquillages taillés munis de 2 trous qui permettaient de les coudre. Donc on est bien en présence de boutons, des boutons qui datent de 3000 ans quand même. Le bouton va devenir de plus en plus fréquent dans le courant du Moyen-Âge. Alors on voit ses formes se diversifier, il y a toutes sortes de boutons, c'est très ingénieux le bouton. Vous savez, ça va devenir un élément de parure petit à petit et l'on va voir un certain nombre de vêtements prendre leur forme grâce au bouton. Alors qui dit bouton dit boutonnière, et les boutonnières on les brodait autrefois au 17e, surtout au 18e siècle, ça va devenir de véritables œuvres d'art. Et simultanément au 18e siècle, on voit apparaître le bouton bon marché, hein, qui peut être en corozo, en fer, etc. Bon, le bouton qui va se répandre et qui va se développer pendant tout le cours du 18e et du 19e siècle. Alors, ça c'est pour le bouton utile, si je puis dire, mais il y a des boutons qui deviennent esthétiques. Alors ces boutons-là, on les porte en jabot, on les porte sur les boucles de chaussures, on les porte dans des endroits stratégiques du vêtement, bien entendu, et aux manches. Alors il y a ces boutons extraordinaires qu'on voit apparaître au 18e siècle, qui vont se développer au 19e siècle, surtout sur les manches. Alors on appelle ça les manchettes de la chemise. Quand au 19e siècle, la chemise devient, la belle chemise blanche, vous savez, à plis, devient l'attribut des classes aisées. Et pour fermer les manchettes, eh bien, on a des boutons amovibles. Les voilà, les fameux boutons de manchette qui apparaissent, on va dire, au tournant du 19e siècle, qui vont se développer au 19e siècle et qui vont devenir, un siècle plus tard, au tournant du 20e siècle, un cadeau qu'on offre aux messieurs, n'est-ce pas? Puisque ça devient un des très rares éléments d'une tenue masculine qui supporte un peu la fantaisie et même parfois l'extravagance, pour ne pas dire l'extrême opulence. Et ça, c'est le bouton de manchette tel que nous le connaissons aujourd'hui. Voilà, j'espère avoir fait à peu près le tour de la question.